de la lettre aux Corinthiens, vous avez dans votre dossier, à la fin des pages agrafées, un plan d'ensemble de ces trois chapitres. Voilà, dans le dossier, normalement, vous avez de l'aide pour relire avec le plan agrafé de ces chapitres. Ça peut toujours vous servir. Par ailleurs, maintenant, nous abordons un autre moment de la lettre aux Corinthiens, qui est une lettre assez longue, et je vous l'ai dit, qui répond à plusieurs types de questions. Avant d'entrer dans ce chapitre 12, donc maintenant, c'est 1 Corinthiens 12 à 14, et dans la question précise qu'il soulève, et dans l'image qui va naître, parce que Paul procède par image, qui est celle du corps. Je voulais quand même dire, puisque nous avions fini sur l'esprit, les spirituels, etc., et ce mépris des Corinthiens pour ceux qui étaient corporels ou charnels, je voulais quand même dire que devant l'espèce de mépris grec pour le corps, vous savez que dans le monde grec, il y a un adage qui dit « le corps est un... » Je ne sais pas si je l'ai noté quelque part. Oui, vous l'avez là, voilà. « Le corps est un tombeau. » Soma, sema. Il y a un jeu de mots en grec, corps, tombeau. Le corps, c'est le tombeau de votre âme ou de votre intelligence, de votre esprit. Donc voilà l'esprit qui, lui, est appelé à l'immortalité, mais votre corps est appelé à la corruption. Donc, le monde grec vit à peu près ça dans la tête, même s'il y a la statuaire grecque qui donne de très beaux corps, mais idéalisés. Puis ceux-là, ils sont en pierre. Ils vont pas se corrompre. Voilà. En face de ça, alors que les Corinthiens donc valorisaient excessivement tout ce qui était de l'ordre du spirituel, du pneuma, et Paul l'a fait lui-même, Paul, dans la lettre, répond en fait sans arrêt en termes de corps. Et il va redonner, à partir de ce corps du Christ supplicié, crucifié, il va redonner au corps humain une étonnante dignité, étant bien entendu que pour lui, le corps n'est pas simplement la carcasse corruptible, c'est la réalité de la personne. C'est ce que nous appellerions la personne. L'unicité d'une personne en relation avec les autres. Et donc, il va sans arrêt, tout au long de la lettre, insister sur cette importance de ce qu'on pourrait appeler, nous, le corps-personne. D'abord, dans des questions qui porte sur les relations sexuelles et le mariage, au chapitre 6 et 7, ou dans la question de la prostitution, il dit « Rappelez-vous que vos corps sont les membres du Christ et que vos corps sont les temples de l'Esprit en vous. » On dit toujours « Paul est un moraliste sévère qui méprise la chair, le corps, etc., la sexualité. » C'est pas vrai du tout. Paul, au contraire, valorise à l'extrême la dignité du corps humain, temple de l'Esprit. Membre du Christ. Ensuite, il y a l'histoire du corps dans les relations conviviales. Le corps, c'est celui qui mange. On mange en relation avec. Il y a donc ces chapitres 8, 9, 10, 11 autour du problème des repas pris avec les païens, avec les juifs. Voilà. Et là, il y a ce respect dû, effectivement, au corps relationnel de chacun avec qui est-on en relation quand on mange, les autres, la divinité, le Christ, Dieu, les démons, etc. Et c'est là qu'il pose la question du repas du Seigneur. Et puis, dans ce chapitre 12, 13, 14, 15, dans les chapitres que nous abordons, Paul va passer, on en reparlera tout à l'heure, mais il va passer progressivement du corps, j'allais dire convivial, du repas partagé au corps ecclésial que cela constitue. Et donc, il va progressivement amorcer cette idée qui sera reprise par ses successeurs et beaucoup plus allégorisée par Colossiens et Éphésiens du fait que les membres de l'Église sont les membres d'un corps qui est le Christ, que nous appartenons au corps du Christ. Les successeurs diront l'Église est corps du Christ. Mais ça, c'est pas encore Paul qui le dit. Mais il s'avance vers ça. Voilà, et c'est ça que je voudrais vous montrer en lisant avec vous ces derniers chapitres. Donc 12, 13, 14. Le chapitre 12, 12, 13, 14, à nouveau répond à une question qui désunissait, qui partageait, qui divisait les Corinthiens, qui est la question de savoir, et on fait le lien avec ce qu'on dit tout à l'heure, qui a le plus d'esprit en soi ? Qui est le mieux habité par l'Esprit-Saint ? Dit autrement, quels sont les phénomènes spirituels, ce qu'on appelait des phénomènes spirituels les plus grands. Et les Corinthiens privilégiaient évidemment ce qui était le plus spectaculaire, ce qui se voyait, c'est-à-dire le fait que dans l'assemblée des hommes et des femmes, les femmes parfois en désordre, il fallait les rappeler à l'ordre, mais quand même, se levaient pour prophétiser. Prophétiser, ça ne veut pas dire annoncer la fin du monde, hein. Ça veut dire dénoncer ce qui ne va pas dans la communauté et appeler à vivre, comme ont fait les grands prophètes d'Israël, appeler à vivre selon ce que l'amour du Christ demande. Mais ils se levaient et ils parlaient. Les gens étaient tout d'un coup habilités à parler, ils avaient cette autorité. Un autre phénomène, ça les Corinthiens trouvaient ça formidable, et un autre phénomène qu'ils aimaient beaucoup, c'est ce que l'on a appelé la glossolalie, le parler en langue, une forme de prière à voix haute dans un langage que l'on ne comprend pas, inconnu, qui a été remis à l'honneur dans un certain nombre et de groupes charismatiques et de groupes évangéliques ou plutôt pentecôtistes. Or ça se produisait à Corinthe et Paul a vécu ça, hein, et il a pratiqué, il le dit. C'est pas des choses qu'il méprise. Hein. Mais les Corinthiens adoraient ça et évidemment si quelqu'un s'était mis à prophétiser ou s'était mis à parler, comme on dit, prier en langue, à ce moment-là, il lui accordait une autorité et une importance extraordinaire. Donc si ça pouvait m'arriver à moi, ce serait quand même vachement bien. Et donc le problème, c'était savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand, c'est l'éternelle question. Et Paul va commencer, c'est intéressant pour nous, par recadrer la question. On appelle ces phénomènes spirituels, puisque l'esprit c'est pneuma, ces manifestations spectaculaires de l'esprit, s'appellent des pneumatica en grec, des pneumatica, c'est pas Michelin, hein, ni Dunlop. C'est des manifestations spectaculaires de l'esprit. Et Paul va dire, c'est très bien tout ça, mais en réalité, il y a beaucoup plus large que ça. Il y a des dons de la grâce de Dieu, des dons de l'esprit qui s'appellent des charismes, parce que charisme, c'est la grâce. Des dons de la grâce de Dieu, et ces phénomènes spirituels en font partie, entre autres. Et je voudrais d'abord lire avec vous ce début du chapitre 12, qui est à la fois amusant, parce que le ton est polémique, un peu ironique, et que Paul se moque un peu d'eux, mais qui est très intéressant aujourd'hui pour cette idée dont je vous disais au début, c'est que l'Église reste à inventer et que Paul n'institutionnalise pas, ne donne pas d'organisation, ça viendra petit à petit de façon incoative avec les lettres à Timothée et à Tite, mais lui-même accepte les organisations locales, et il y en a toujours. On ne va pas dire que c'est désorganisé. À Corinthe, c'était la foire. Mais justement, comme c'est la foire, il intervient. Mais comment il traite cette question de la diversité des présents dans la communauté et de leur rôle respectif. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Donc, je lis avec vous un petit morceau de ce texte. D'abord, des versets 1 à 12, 1 Corinthiens 12, 14. Ça va ? Chapitre 12. Donc, ça fait partie de ces morceaux de la lettre qui commencent par un « au sujet de » pour ceux qui concernent et qui répondent clairement à une question qui lui a été posée. « Au sujet des phénomènes spirituels, frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. » Alors, quand je dis qu'ils se moquent un peu d'eux, pour des gens qui valorisaient la connaissance, en gros, il leur dit « vous êtes des ignorants ». Vous savez, et il leur rappelle, ces méchants, leur passé païen. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez comme entraînés auprès des idoles muettes. Bien sûr qu'elles ne disent rien, celles-là, elles n'ont pas le logos. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, s'il parle dans l'Esprit Saint, ne dit « Jésus est anathème », donc ne condamne Jésus. Est-ce qu'il y avait eu des choses comme ça à Corinthe ? On n'en sait rien. Ce passage est un crux, on ne sait pas interpréter. Et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. On va garder la partie qu'on comprend. Personne ne dit « Jésus est Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît l'Esprit de Dieu, ceux qui disent « Jésus est Seigneur ». Il a évoqué leur phénomène spirituel. Il va élargir au don de l'Esprit à ces fameux charismes, charismata. Je vous lis le passage et on revient dessus. Il y a diversité de dons de l'Esprit, mais c'est le même Esprit. Et il y a diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'actions, mais c'est le même Dieu qui met en œuvre tout en tous. À chacun est donnée une manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. À l'un, en effet, par l'Esprit, est donnée une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance conformément au même Esprit. À un autre, la foi dans le même Esprit. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, des genres de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui le met en œuvre en distribuant à chacun selon qu'il veut. Voilà, unité de l'Esprit, diversité des manifestations, si je veux résumer. Alors, c'est très bien construit. Ça commence, même Esprit, mais diversité de services, dons, actions. Est-ce qu'il y a quelque chose de vaguement trinitaire ? Je n'en sais rien. Et ensuite, à chacun est donnée une manifestation de l'Esprit, mais c'est toujours en vue du bien commun, et c'est ça la vérification. Et ça se termine, c'est l'unique et même Esprit qui met tout en œuvre et qui distribue à chacun comme il veut. Donc, ce n'est pas vous qui décidez de vos dons, c'est l'Esprit qui distribue comme il veut à chacun. Et ce qui vérifie le don, c'est qu'il est en vue du bien commun. Si c'est pour votre gloriole ou votre satisfaction personnelle, ça ne vaut pas. Voilà. Ensuite, cette énumération de dons, elle est quand même assez intéressante. Évidemment, c'est scandé par l'esprit, conformément à l'esprit, dans l'esprit. En grec, ce qu'il y a d'amusant, c'est que le grec est une langue à cas, qui se décline. C'est-à-dire que la fonction du mot dans la phrase est exprimée par sa finale. La finale du mot change. Il y a plusieurs lettres, voyelles, là, au fond du mot, qui changent. Et en parlant comme ça de l'esprit, conformément à l'esprit dans l'esprit, il arrive à décliner tout le mot. C'est-à-dire, visuellement, c'est l'esprit dans tous ses états, sous toutes les formes du mot. Bon, donc, et c'est quelque chose de connu ailleurs dans la poésie grecque. Ça, je vous le dis au passage, si ça intéresse l'un ou l'autre. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que il va reprendre, au fond, les dons que les Corinthiens valorisaient. Une parole de sagesse, une parole de connaissance. Et puis, il ajoute la foi. Moi, je me suis longuement posé la question, pourquoi la foi est un don pour l'un et pas pour l'autre? Tous ces gens-là ont quand même plus ou moins la foi. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est très simple. Il y a des gens qui sont doués pour la foi. Moi, je suis assez douée pour le doute. Voilà. Donc, il y en a qui ont la foi comme don un peu mieux que les autres, probablement. Bon. Après ça, il y a les dons de guérison. Après les actes de puissance ou miracles, la prophétie. Et voyez qu'il met en dernier la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues. Donc il les met en dernier, il est un peu méchant. Mais au fond, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire, et il fait exprès, qu'il n'y a pas de hiérarchisation des dons. Voilà. Dans l'Église, pour Paul, tous sont charismatiques. Tous ont un don de l'esprit. Ces dons, ils sont divers. Paul fait exprès de ne pas dire qu'il y en a qui pourraient être perpétuels ou au contraire provisoires. On peut avoir un don à un moment, ne plus l'avoir après. Est-ce que ce sont des qualités innées ou des qualités acquises? Est-ce que ce sont des choses qu'on vous demande ou que vous proposez? C'est l'esprit qui fait comme il veut. Il fait exprès de brouiller les pistes. Alors, quand on essaye de faire à partir de ça une théologie des ministères, on se plante. On se plante complètement. Parce que le but de Paul, c'est de brouiller les pistes et de dire, pas de hiérarchie, vous êtes tous charismatiques, vous avez tous des dons différents. C'est l'Esprit qui vous les donne, ça ne vient pas de vous. Donc, ce n'est pas à peine de faire les fiers, quoi qu'il arrive. On ne les classe pas. Et au fond, ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est que ça soit pour le bien de tous. Et ça, je crois que c'est important, parce que du coup, ça nous dit, ben oui, dans l'Assemblée chrétienne, il y a le président, mais il y a aussi la personne qui a rangé les chaises, il y a celui qui distribue la communion, et il y a celui qui a fleuri l'Église, il y a celui qui fait ceci, il y a celui qui fait cela, chacun a un rôle, et un don, et les dons sont différents, et on ne les choisit pas, et surtout, on ne les hiérarchise pas. Ça marche ? Voilà. Nul n'est, et en plus, nul n'est propriétaire de son don. Ça appartient à l'Esprit. Voilà, petite démonstration pour ce début. Et puis, ça vous donne un peu la manière de Paul. Il recadre les choses en se moquant assez gentiment, là, des gens. Assez gentiment. Après, on passe à des choses plus sérieuses. Il va avancer là-dedans en reprenant, parce que c'est un peu le fil rouge de ses différentes réponses, en reprenant cette idée du corps. Et il va comparer, alors, il ne va pas comparer l'Église à un corps. Paul ne dit jamais l'Église est le corps du Christ, c'est ses successeurs qui le diront. Lui, il parle des membres du Christ, des membres d'un corps qui est le Christ. Il est beaucoup plus prudent dans l'assimilation ou dans la métaphore, si on peut parler de métaphore. Ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où lui vient cette idée, d'où lui vient au fond cette idée, cette nouveauté, cette idée nouvelle, qu'on peut assimiler les chrétiens aux membres du Christ, aux membres d'un corps, à faire une espèce d'image, hein, comme il le dit là, de même en effet que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps étant plusieurs sont un seul corps, c'est quand même la vérité de la palisse. De même aussi, alors vous diriez de même aussi l'Église, il va parler d'un corps social, pas du tout. De même aussi le Christ. Il y a le Christ qui est un corps vivant dont nous participons en étant ses membres d'une façon ou d'une autre, unis et en même temps différents. D'où lui vient cette idée du corps ? Donc, je rappelle qu'on est dans un monde où le corps n'a pas bonne réputation, le mot « soma », qui est assez, d'ailleurs en français aussi, « somatique », c'est quand même pas de l'ordre spirituel, c'est bien l'ordre physique. Et il va quand même essentiellement s'appuyer sur ce soma pour parler du corps du Christ et dire que c'est à cela que les chrétiens, c'est de cela que les chrétiens font partie. À mon avis, pour le comprendre, on est obligé de revenir un peu en arrière. Je ne vous l'ai pas donné sur la feuille, mais vous irez le voir dans vos Bibles, et de toute façon, vous l'avez ici. Il faut revenir en arrière dans le chapitre précédent, ou un peu encore avant, au chapitre 10, où c'est dans un grand développement qui n'est pas très drôle à lire, et donc je ne vous l'ai pas donné, sinon vous m'auriez dit « Paul est compliqué, ennuyeux, saoulant ». Bon, donc je n'ai pas voulu faire ça. Mais c'est dans un grand développement où Paul explique que, au fond, on, à la fois, le chrétien peut bien manger n'importe quelle viande qui soit sacrifiée ou non aux idoles. De toute façon, les idoles, il sait bien que ça n'existe pas. Donc, tout ce que Dieu donne est bon. Et en même temps, puisqu'il y en a que ça gêne et que ça inquiète, il vaut mieux s'en passer. D'autant que c'est assez facile de se laisser entraîner quand même après dans un contexte très païen, idolâtre, à l'idolâtrie. Et il prend pour exemple de cet entraînement et de cette possibilité d'union avec la spiritualité païenne à travers un repas, il prend justement l'exemple du repas du Seigneur. En disant, vous allez voir le repas du Seigneur, comment ça fonctionne. Alors, faites attention, ne vous laissez pas entraîner ailleurs. Et là, tout d'un coup, il a deux lignes. Alors, c'est comme ça, Paul, des fois, on sort deux lignes, et voilà, c'est deux merveilles, au milieu d'un raisonnement qui est bien intéressant, mais enfin, bon, sans plus. Et tout d'un coup, il dit, voilà, ne vous laissez pas entraîner à n'importe quelle union avec les divinités, parce que la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas participation, et c'est le mot koinonia, communion, qui est ici, au sang du Christ, le pain que nous rompons n'est-il pas participation, communion au corps du Christ, soma. Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes à plusieurs un seul corps, puisque tous nous avons part à l'unique pain. Et on a ces deux versets et rien d'autre. Après, vous vous débrouillez avec ça. Et vous voyez que derrière, il y a très évidemment, d'ailleurs il le redit après au chapitre 11, il y a très évidemment le repas du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons, qui est la participation au sang du Christ, le pain que nous rompons, qui est la participation au corps du Christ. Donc derrière, il y a le repas du Seigneur. Dans ce repas du Seigneur, il va le dire au chapitre 11, il rapporte les paroles du Seigneur, la nuit où il fut livré, le Seigneur dit. Et dans ces paroles, ceci est mon corps, et dit avec ce mot « soma ». Me demandez pas quel mot Jésus a prononcé en araméen. Il y a de la bagarre là-dessous et personne ne sait. On n'était pas là, c'est beaucoup d'endroits où on aurait aimé être sous la forme d'une mouche un peu attentive, mais on n'était pas là. Et en fait, les premières expressions qu'on a, c'est en grec. Après, on a des retraductions en hébreu. Mais les expressions qu'on a, c'est en grec, il faut faire avec. Et Jésus ne l'a pas dit en grec. Hein. Non, c'est... Donc, en grec, le mot choisi dans cette tradition du repas du Seigneur, qui n'est pas une invention de Paul, qu'il reçoit, et on voit bien qu'il a même la même tradition que Luc. Marc et Matthieu ont une tradition, avec une forme des paroles du repas du Seigneur, Luc et Paul en ont une autre, dont on pense que ça doit passer par Antioche. Et là, on voit bien que Luc tient de Paul, hein, même dans son évangile. Alors, dans cette tradition qu'il a reçue, le corps auquel nous participons, ce pain du Seigneur que nous mangeons comme corps, se dit soma. Et du coup, Paul exploite ce mot en disant, puisqu'il y a un seul pain, nous sommes, nous qui sommes plusieurs, un seul corps, puisque nous avons part à l'unique pain. Et vous voyez qu'il est en train de dire que, au fond, parler du corps du Seigneur partagé, c'est en même temps parler du corps qu'on va appeler ecclésial, qui de plusieurs réunit tous ceux qui partagent le même pain. Vous voyez bien qu'on a à la fois le corps. Alors, nous, on a un vocabulaire très soigné et on va parler du corps sacramentel ou du corps eucharistique et du corps ecclésial. Lui, rien du tout. Rien du tout. Comme ça. Mais si je traduis avec les mots d'aujourd'hui qui sont peut-être trompeurs, évidemment, mais il est bien en train de dire nous participons au corps eucharistique, au pain, hein, qui est le corps qui a participé au pain, c'est participer au corps du Christ. Et puisque nous participons au même pain, à plusieurs, nous formons un seul corps, qui est un corps quoi ? Ecclésial. En tout cas, les deux sont étroitement liés. Il n'y a pas de corps eucharistique sans constitution du corps ecclésial. Il n'y a pas de constitution du corps ecclésial en dehors de la participation à ce corps du Seigneur. Et ça, je crois que c'est vraiment important pour la compréhension de l'Eucharistie. Le corps auquel nous participons, ce n'est pas mon petit Jésus et moi dans ma boîte, c'est nous constituons, nous participons au même corps qui est le corps du Christ et nous formons, nous, à plusieurs, un corps. Ça nous constitue. C'est comme les deux pièces, les deux faces d'une même pièce de monnaie. Ce qui est premier, c'est le corps du Seigneur partagé. Mais ce qui se constitue aussitôt, c'est le corps qu'on va appeler nous ecclésial. Ça marche ? Et donc, c'est bien cette image du corps que Paul reprend ici. C'est ça qui l'autorise, à mon avis, à utiliser ici. Parce que pour nous, c'est facile. Le mot corps, on a derrière nous 2000 ans, ou pas tout à fait, de l'Église corps du Christ, toutes les querelles du Moyen-Âge sur le corpus verum et le corpus mysticum. Enfin, je veux dire, il y a eu des tonnes et des tonnes de livres dans le christianisme sur la question. Donc pour nous, c'est voilà. À l'époque, parler de soma en monde grec, mais ils sont barges. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut voir. J'en dis, mais ils sont fous, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ils bouffent du cadavre. Non mais voilà, le mot est difficile, donc Paul le reprend, l'acclimate et dit c'est ce qui nous constitue encore vivant, encore ecclésial, et nous sommes le corps du Christ que nous partageons. Et là, il donne tout d'un coup une espèce d'assomption, je ne sais pas comment il faut dire, à ce mot extraordinaire. Il fera pareil à la fin de la lettre, si vous allez lire, dans 1 Corinthiens 15, pour le corps ressuscité. Il va dire que nous ressuscitons corps spirituel. Quand on pense que pour le monde grec, corps c'est tombeau, dire on est corps ressuscité, c'est fabuleux comme expression. Après, nous, on l'entend plus, parce qu'on a trop fait passer notre culture chrétienne là-dessus. Il faudrait peut-être le redécouvrir. Bon, revenons à notre 1 Corinthiens 12, là. Il dit donc, de même en effet, et c'est la même histoire que vous avez ici, que le corps est un et qu'il a plusieurs, cette fois-ci plusieurs membres, mais que tous les membres du corps étant plusieurs sont un seul corps, de même aussi le Christ. Et qu'est-ce qui a constitué ce corps ? Et en effet, c'est dans un seul esprit. Pour Paul, il n'y a pas de corps sans esprit. Le corps est rassemblé, constitué par l'esprit. Bah, le corps n'est pas un corps mort, jamais. C'est dans un seul esprit que tous nous avons été baptisés, voilà le baptême qui arrive, pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Il a oublié les femmes, mais c'est pas grave. Et tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. On se demande si c'est le repas du Seigneur ou si c'est cette idée du don de l'esprit à travers le baptême, etc. Ça va ? Donc, c'est bien sur cette présence de l'esprit et ce don de l'esprit qu'on peut dire que les croyants forment un seul corps. Ils sont les membres d'un corps qui est le Christ. À partir de là, Paul va pouvoir déployer cette espèce, exploiter cette image du corps vivant. Les chrétiens forment un corps vivant qui est le corps du Christ. pour exploiter l'image, on voit très bien qu'il se sert d'un modèle littéraire, donc il sait faire, hein, il se sert d'un modèle littéraire existant. Vous tournez la page. 2, 3. Vous voyez la page 3 ? Le modèle littéraire existant, c'est qu'il existe dans la littérature latine, antérieure à Paul. On n'a pas grand-chose dans la littérature grecque, mais à mon avis, ça devait quand même s'enseigner dans les écoles. Et Paul est allé à l'école juive, mais aussi à l'école grecque. Dans la littérature latine, on a 2 ou 3 exemples. Le plus frappant est Tite-Live, d'une histoire qu'on a appelée la fable du corps. Tite-Live, c'est un historien latin qui a vécu entre 59 et je ne sais pas quoi avant Jésus-Christ, donc quelque chose comme, ça fait à peu près 60 ans, 70 ans, 80 ans avant Paul. Donc suffisamment pour que son œuvre soit connue. De toute façon, l'histoire existe aussi ailleurs, elle se transmet un peu. Alors, je vous lis le récit de Tite-Live, vous l'avez sous les yeux, et on le situe. L'épisode se situe donc dans l'histoire de la République romaine au moment de la révolte de la plèbe, donc du peuple, qui se révolte contre le Sénat et les patriciens, les aristocrates, et on craint un coup de force contre le Sénat. On décida d'envoyer à la plèbe un parlementaire du nom de Menenius Agrippa, orateur éloquent, que ses origines plébéiennes rendaient populaire. Une fois introduit dans le camp, il eut recours à un procédé oratoire archaïque et primitif et se borna à raconter cette fable. Au temps où le corps humain ne formait pas comme aujourd'hui un tout en parfaite harmonie, mais où chaque membre avait son opinion et son langage, tous s'étaient indignés d'avoir le souci, la peine, la charge d'être les pourvoyeurs de l'estomac, premier syndicat de l'histoire. Tandis que lui, oisif au milieu d'eux, n'avait qu'à jouir des plaisirs qu'on lui procurait. Tous, d'un commun accord, avaient décidé les mains de ne plus porter les aliments à la bouche de ne plus les recevoir, les dents de ne plus les broyer. Mais, voulant dans leur colère réduire l'estomac par la famine, du coup, les membres, eux aussi, et le corps tout entier, étaient tombés dans un complet épuisement. Ils avaient alors compris que la fonction de l'estomac n'était pas non plus une sinécure, que si ils le nourrissaient, ils les nourrissaient en renvoyant à toutes les parties du corps ce principe de vie et de force réparti entre toutes les veines, le fruit de la digestion, le sang. Ils étaient bons, hein ? Ils étaient bons en médecine. Faisant alors un parallèle entre la révolte interne du corps et la révolte des plébéiens contre le Sénat, il les fit changer de sentiment. Bon, ils étaient bons princes, hein, d'avoir changé de sentiment. Mais voilà l'image. Voilà l'image qui, au fond, compare le corps social au corps humain, en montrant qu'il y en a qui ont des meilleures places que d'autres, mais au fond, c'est parce qu'eux nourrissent tout le monde, etc., etc. Alors, Paul a pu s'appuyer, non pas sur le détail de ce texte, parce qu'il n'en parle pas du tout, mais il s'est appuyé sur l'idée que le corps social pouvait être comparé à un corps humain. Et voilà ce qu'il en fait. Maintenant, on revient au texte de Paul. Je crois vraiment qu'il y a au moins le... Il n'y a pas le récit exact de Tite-Live derrière. D'ailleurs, Tite-Live écrit en latin, Paul en grec. Mais il y a l'histoire qui se raconte. Voilà ce que Paul en fait, à partir du verset 14. En effet, le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied dit « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », est-ce pour cette raison qu'il n'est pas du corps ? Si l'oreille dit « parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », est-ce pour cette raison qu'il n'est pas du corps ? Si tout le corps est œil, où serait l'ouïe ? Si tout est ouïe, où serait l'odorat ? En réalité, Dieu a disposé les membres, chacun dans le corps, selon ce qu'il a voulu. On reprend ce qui était dit plus haut, les charismes, les dons, selon ce qu'il a voulu. Tout le monde ne peut pas avoir le même don, et chacun a un don différent, et c'est bien ainsi. Si tout était un seul membre, où serait le corps ? En réalité, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ou encore la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Chacun est complémentaire et nécessaire. Voilà, c'est ça que Paul en tire. Vous voyez que c'est à peu près la leçon qu'on avait déjà tirée plus haut. Il va un peu plus loin. Mais bien plus, les membres du corps, qui semblent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous considérons comme le plus dépourvus d'honneur, autrement dit, les pudenda, les membres qu'on appelle honteux dans toutes les langues, hein, c'est bien clair. Ceux-là, nous les entourons de plus honneur. Et ce qui est chez nous le moins décent reçoit le plus de décence. Ce qui est décent n'en a pas besoin. Mais Dieu a organisé le corps en donnant davantage d'honneur à ce qui en est privé, afin qu'il n'y ait pas de déchirure dans le corps, mais que les membres et tous ensemble le soucient des uns des autres. Donc ce qu'il ajoute là, qui n'était pas chez Tite-Live et au contraire, qui dit le contraire, c'est qu'au fond, Dieu a donné le plus d'honneur et que nous devons honorer le plus les membres les plus faibles et même les membres les moins décents, les plus honteux. C'est-à-dire non, ceux dont nous avons honte, ceux qui nous font honte. Bon, c'est pas évident hein, comme leçon. C'est pas évident comme leçon. Et bon, ça joue sur beaucoup de registres. Et moi, je trouve que c'est une leçon à l'Assemblée chrétienne. On lit jamais ce texte et on l'explique jamais en chair. Non, si ? Ben, on devrait, hein ? On devrait, parce que c'est quand même... quelque part, c'est révolutionnaire, hein ? Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des gens qui le vivent, il y a des gens qui le pratiquent. Pas tout le monde, hein ? Bon, au moins, non, c'est difficile. Il faut que tous les membres aient le souci les uns des autres. Et ensuite, on va bien voir qu'il applique aux relations entre les membres la communion dont il parlait, c'est-à-dire la participation au mystère pascal. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, on est dans le mystère pascal, souffrance et glorification, tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous, vous êtes le corps du Christ, c'est là qu'il va le plus loin, il ne dit pas l'Église, vous êtes le corps du Christ, et ses membres, chacun pour sa part. Et c'est au fond cette phrase-là qui va permettre toute cette réflexion ensuite sur l'Église en tant que corps du Christ et sur les chrétiens en tant que membres du corps du Christ. Ça va ? Donc là, vous avez aussi toujours cette façon de Paul de lancer quelque chose de très serré, puis il faudra après, pendant des siècles, le distendre, l'expliciter, faire des erreurs, revenir. Alors, est-ce que dans l'affaire, on a oublié l'Église ? Pas tout à fait. Voilà. On n'a pas complètement oublié l'Église parce que, après avoir bien dit que, au fond, chaque membre a sa dignité et que les membres les moins décents et les plus honteux, ceux qui doivent être le plus honorés et glorifiés. Paul va revenir sur l'idée que malgré tout, dans l'Église, comme dans toute organisation ou tout groupe humain, il y a nécessairement tous et quelques-uns. Tous et quelques-uns. C'est, voilà. Ça fait partie, j'allais dire, de la structure même d'une formation humaine. Tout le monde dirige, c'est pas vrai. Il y en a partout, quelques-uns qui sortent. Et là où on dit que tout le monde dirige ensemble, eh ben, ça veut dire que quelques-uns manipulent tout le monde. Et donc il reprend avec une espèce de sagesse qui est intéressante. Et Dieu les a disposés dans l'Église. Et là, vous voyez qu'on n'est plus sur le même plan. On n'est plus dans le corps du Christ. On passe vraiment dans l'Église comme rassemblement, ecclésia, qui doit maintenant avoir une forme particulière, qui s'est rassemblée pour telle raison et qui doit se gérer. Et là, il aborde finalement un autre problème, tout en restant dans sa problématique de qui est le plus grand. Dieu les a disposés dans l'Église. En premier lieu, des apôtres. En second lieu, des prophètes. En troisième, des docteurs. Ensuite, ceux qui font des actes de puissance. Ensuite, des dons de guérison, des protecteurs, des gouverneurs, des genres de langues. Tous seraient-ils apôtres ? Tous seraient-ils prophètes ? Tous seraient-ils docteurs ? Tous seraient-ils capables d'actes de puissance ? Tous auraient-ils des dons de guérison ? Tous parleraient-ils en langue ? Tous interpréteraient-ils ? Recherchez les dons les meilleurs. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? À nouveau, il est en train de faire plusieurs choses à la fois. Premièrement, de nous annoncer que dans l'Assemblée, l'Ecclésia, il y a malgré tout quelque chose qu'on peut classer comme premièrement, deuxièmement, troisièmement. Des apôtres, des prophètes, des docteurs, et puis tout un bazar d'autres. On en a vite tiré que Paul institue une hiérarchie avec les apôtres en premier, les prophètes en second, les docteurs en troisième. J'en suis pas si sûre que ça. pas si sûr que ça. Pourquoi est-ce qu'on lit toujours, mais ça c'est parce qu'on est complètement déformé, pourquoi est-ce qu'on lit toujours en premier, en deuxième, en second, comme quelque chose de hiérarchique? Ça peut être chronologique. Pour moi, c'est purement chronologique. Pour faire une rassemblée chrétienne, il faut qu'arrivent des apôtres, c'est-à-dire des envoyés par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, par une église, pour rassembler. Et puis ensuite, une fois que l'assemblée est là, il faut des gens pour prophétiser, pour dire ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. Puis ensuite, il faut des docteurs ou des gens pour enseigner ce qu'on doit croire. Oui ? Comment ? Je n'ai pas compris. Oui ? Ah, pour ne citer que cela, peut-être, oui. Moi, je me demande si quand même ce n'est pas chronologique. Ce n'est pas la formation d'une ecclésia dans le temps. Et ce qui me permet de dire ça, c'est que dans la lettre aux Éphésiens, qui est reprise de Paul, hein, qui est une relecture de Romains 8, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Dans la lettre aux Éphésiens, vous avez la même chose, dit en des termes un peu différents, parce que, de façon très très forte, Éphésiens parle donc des quelques-uns qui sont plus responsables que d'autres ou plus visibles que d'autres dans l'Église, et il dit, non pas Dieu leur a donné d'eux, mais Dieu les a donnés à l'Église. Ceux-là sont des dons de Dieu à l'Église. Il y a un certain nombre de personnes qui sont des dons de Dieu à l'Église. Et ces dons de Dieu, il y a des apôtres, des docteurs, de chacun, mais les noms changent. Il apparaît des catéchètes, c'est-à-dire que suivant les formes d'institutions différentes, on va avoir des fonctions différentes de gens qui se détachent du lot à certaines époques et à certains moments et qui sont donnés pour telle ou telle tâche par Dieu à l'Église. Donc je vous propose ça. En tout cas, ce qui est assez quand même amusant, c'est que Paul, après avoir ébauché rapidement, pour ne citer que cela, une espèce de, sinon hiérarchie, du moins une espèce de classement, aussitôt remélange tout. Tout serait-il ceci, tout serait-il cela? Non. Chacun ses dons et tous ont la même dignité. Ça marche? Et il va sortir de là par le haut. Et voilà comment il sort de là par le haut. Recherchez les dons les meilleurs, ce qui est parfaitement contradictoire avec ce qu'il a dit jusque-là, puisque jusque-là, il avait dit que c'était l'Esprit-Saint qui vous donnait les dons. Maintenant, il faut les rechercher. Ben, il y a les deux, voilà, recherchez. Et je vais vous montrer une voie encore, alors le mot grec est tellement hyperbolique, c'est en plus qu'hyperbole, je traduis en excès, on traduit parfois infiniment supérieur, il y a une voie qui les déborde toutes. La voie qui les déborde toutes, vous tournez la page, va vous être exposée dans ce chapitre 13 qui contient le magnifique hymne à l'agapé, à l'amour, dont on ne sait pas, là aussi, si Paul l'a écrit ou s'il l'a reçu. À la limite, peu importe, puisqu'il nous le transmet. Ça va recommencer en parlant des fameux dons, des fameux phénomènes spirituels. Il ne les a pas oubliés, hein, parce qu'il va finir par leur répondre. Phénomène spirituel que les Corinthiens prisaient tellement, le don des langues et la prophétie. Et donc, il va remonter là depuis ceux qu'il aime le moins jusqu'à ceux qu'il aime le plus. Si je parle la langue des hommes et des anges, parce qu'on disait que cette parole incompréhensible s'appelait aussi la langue des anges, et que je n'ai pas l'amour, agapé, je vous ai dit que c'était vraiment une création, je suis un airain qui sonne, une cymbale qui résonne. Si j'ai le don de prophétie et que je connais, alors voilà la connaissance, tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai toute la foi, je vous en parlais ce matin, au point de transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je partage tous mes biens, et si je livre mon corps pour me vanter, il y a des traductions qui disent mon corps aux flammes, mais Paul aime beaucoup ce vocabulaire de la vanterie, de la vantardise. Bon. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Et ensuite, vous avez ces quelques lignes magnifiques qu'on a appelées l'hymne à l'amour, que je ne vais pas expliquer, parce que ça ne s'explique pas. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de l'air, en tout cas c'est une traduction. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas d'injustice, mais trouve sa voie dans la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Fait remarquer que dans ce passage, qui est impressionnant, le Christ n'est pas nommé. Jésus-Christ n'est pas nommé. on gratte bien, si on gratte bien le texte grec, on s'aperçoit que le verbe prendre patience, le verbe prendre patience, c'est le verbe makrotumia, qui est une qualité par excellence de Dieu. La makrotumia, la grandeur de cœur, l'ouverture du cœur, c'est une qualité par excellence de Dieu. Si on gratte bien aussi, on s'aperçoit que le verbe rendre service, c'est un verbe où on entend le nom du Christ, même s'il n'y a rien à voir. Christo etai. Bon, peu importe, je dis ça pour m'amuser. Il est évident que cet hymne à l'amour a en fait pour sujet, qui sait, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, le Christ lui-même. C'est la façon qu'a Paul de relire et de connaître la vie du Nazaréen. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne sait pas le détail, mais ce qu'il en a compris, ce qu'il en rend, ce qu'il en transmet, c'est qu'il est l'agapé fait homme. Ça va ? Et c'est ça qu'il dit ici, me semble-t-il, en même temps qu'il dit ce que doit être l'agapé chrétienne à laquelle on ne parvient jamais. Après ça, il conclut en disant « L'amour ne tombe jamais » et il reprend « Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » En effet, nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement. Et il attend une plénitude. Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Et il y a les phrases célèbres, nous voyons aujourd'hui, à travers un miroir, de façon confuse, le grec dit par énigme, comme quelque chose qui pointe, hein, qui esquisse. Mais alors, ce sera face à face. Alors, aujourd'hui, je connais partiellement, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Je vous laisse méditer ça, mais je vous signale quand même qu'ayant dit tout cela, et après cette envolée quand même spectaculaire, Paul tranquillement revient à ses chers Corinthiens et il va leur dire maintenant ce qu'ils pensent de leur don spirituel qu'ils aiment tant. Et avec un peu beaucoup d'ironie et parfois un petit peu de méchanceté, ça ne gêne pas du tout. Il reprend. Poursuivez l'amour. Recherchez les phénomènes spirituels. Mais surtout pour prophétiser. En fait, il préfère la prophétie à la prière en langue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Personne, en effet, ne l'entend. Il dit par l'esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes pour les édifier, l'image de la construction, les exhorter, les encourager. Je veux bien que tous vous parliez en langue, mais je préfère que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand. Ah, voilà, alors il fait une petite hiérarchie. Que celui qui parle en langue, sauf si ce dernier interprète, afin que l'Église, l'Assemblée, soit édifiée. Et donc, finalement, il les renvoie dos à dos. Donc après ça, il y a un long développement qui n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est Paul, après des passages merveilleux, il faut se taper 4 pages compliquées, pas très intéressantes, c'est pas grave. Ou qui peuvent l'être, mais enfin... Voilà donc comment... Et ça vous montre, là, je voulais vous montrer à nouveau le geste de Paul. Au fond, pose la question, qui est le plus grand ? C'est ça que vous demandez, qu'est-ce que valent ces phénomènes spirituels ? On va vous répondre, mais avant de vous répondre, voilà. Avant de vous répondre, les dons de l'esprit, tous ont un don de l'esprit, et c'est l'esprit qui donne comme il veut, et il n'y a pas que ce soit supérieur aux autres. Avant de vous répondre, on vous affirme que vous êtes les membres d'un corps, et que ce corps est le Christ, et que dans ce corps, ce sont les plus faibles qui doivent avoir le plus d'honneur. Et que quel que soit le fait qu'il y ait quelques-uns parmi d'autres qui se lèvent parmi d'autres, ça n'a pas d'importance, ça ne change rien à la dignité de tout le monde. Et au fond, il y a une voie encore plus supérieure qui est celle du Christ lui-même, qui est l'agapé. Après, si vous voulez vraiment savoir, dit Paul, moi je préfère la prophétie, vous pouvez prier en langue, mais à ce moment-là, trouvez-vous un interprète. Vous voyez le geste qui est assez intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, ça va ? Vous êtes complètement mort, épuisé. Non ? Bon, il n'y a rien du tout. Dans ce cas-là, je sens le degré d'épuisement. Dans ce cas-là, moi, je conclus. Et puis, vous pourrez poser des questions sur la conclusion, parce qu'on est un peu en avance, mais je veux dire, ça n'a pas d'importance. Vous allez après rentrer chez vous et lire du Paul. Je conclus qu'il faut garder, en vue justement d'un cours d'ecclésiologie, mais même dans la réflexion, quelques grandes images de l'Église chez Paul. C'est important, puisqu'on était dans les premières communautés chrétiennes, et comment ces communautés ont inventé librement, Paul l'appelle à la liberté, hein, leur façon de vivre, quelques grandes images. Et ces images, c'est d'abord les images de plantation et de construction. Et ces images de plantation et de construction que vous lirez dans le chapitre 3 à la première aux Corinthiens, elles sont extrêmement importantes, même si elles n'ont pas tellement fait fortune après, parce que c'est des images dynamiques qui disent que le processus n'est pas fini. Le processus n'est pas fini. L'Église reste une plante qui pousse. L'Église reste en chantier. C'est le chantier de Dieu. Et que même s'il y a des apôtres qui ont... Parce que Paul n'est pas pour un Dieu premier moteur. Même si les apôtres ont semé, même s'il y en a d'autres qui ont arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Et ce n'est pas vous qui êtes maître de la croissance. Voilà. Dieu seul est maître de la croissance. Et ça, c'est vraiment des images importantes qu'il faut garder plus souvent en tête. Après, vous avez effectivement cette image étonnante du corps du Christ qui va être développée ensuite, Colossiens et Éphésiens, l'Église est le corps d'un Christ-tête. Mais Colossiens et Éphésiens vont transformer ce début d'image en une espèce, comment dire, d'allégorie, puisque le Christ va devenir la tête, l'Église va devenir le corps. Alors, on a des images superbes dans Colossiens et Éphésiens, notamment dans l'hymne aux Colossiens au début, le Christ... Et la tête, au fond, il y a un accouchement de la création vers la création nouvelle. Le Christ-tête est passé déjà. Et dans un accouchement, on sait bien que quand la tête est passée, le corps suit. Donc l'Église-tête, l'Église-corps va suivre derrière. Mais elle suit en essayant de rassembler le monde, ou en tout cas en étant ouverte au monde entier. Il faut que le monde entier passe. Voilà, il y a des images comme ça, qui sont davantage de l'ordre de l'image, de l'allégorie, mais qui sont très fortes. En tout cas, l'image du corps du Christ, moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'elle est pour Paul étroitement liée au corps eucharistique qui constitue, lorsqu'on y participe, le corps ecclésial, qui constitue les chrétiens en corps du Christ et ne jamais séparer ces deux corps-là. Quand on ne sait pas, d'ailleurs, il le dit très bien dans 1 Corinthiens 11, quand il critique les Corinthiens de la façon dont ils pratiquent le repas du Seigneur en laissant les pauvres qui arrivent à la fin mourir de faim pendant qu'eux se gavent. Et il leur dit, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous partagez. Ce n'est pas vrai. Quand il y a division, quand il y a oubli des uns au profit des autres, quand il y a exclusion, vous vous racontez des histoires. Ce n'est pas le repas du Seigneur. Car le repas du Seigneur, on honore, quand on honore le corps partagé le pain, on honore du même coup le corps ecclésial. Et si on déshonore le corps partagé, on déshonore le corps ecclésial. Si on déshonore le corps ecclésial, on déshonore le corps pain partagé. Donc cette image est forte, il faut la garder. Vous avez aussi chez Paul l'image de l'Église temple de l'Esprit. Elle est intéressante et forte parce qu'évidemment, il y a derrière l'image du temple de Jérusalem, où Dieu se rend présent au milieu de son peuple. Et là, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, donc cette petite église qui devait être faite à une centaine de personnes, entre 40 et 100, hein, dans une ville de 200 000 habitants, est quand même le lieu où Dieu vient vivre au milieu des hommes. Et c'est vrai aussi de l'église encore plus petite de Thessalonique. Donc cette image du temple est très forte, d'autant que Paul l'applique à la fois à l'église et à chaque chrétien. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint en vous, le temple étant le lieu où Dieu se rend présent à son peuple. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça donnera, je vous l'ai dit là, les images de Thérépolinienne du corps du Christ tête. Donc les grandes images, c'est plantation, construction, corps, temple de l'Esprit. Il y a une image qui n'est pas chez Paul et qui va apparaître et être promue. Vatican II, le Benjentium, c'est l'image de l'Église peuple de Dieu. Paul n'emploie pas, pratiquement jamais cette image. Et pour cause, il réserve de façon explicite l'image, le titre de peuple de Dieu à Israël. L'image de peuple de Dieu à Israël, étant donné que, effectivement, dans la lettre aux Romains, Romains 9, 11, Paul montre bien que ce qui se joue entre communauté chrétienne, l'Église et Israël, peuple de Dieu, c'est un rapport de nécessaire de nécessaire corrélation. On n'est pas l'un sans l'autre. Israël rappelant sans arrêt à l'Église qu'elle n'est pas tout, et l'Église sans arrêt, finalement, en jalousie ou en compétition avec Israël. On sera réunis à la fin des temps, c'est l'espérance de Paul, même si pour le moment, ça le désespère. Et du coup, il réserve ce titre à Israël. Le titre a été quand même employé, et c'est un grand titre, dans Vatican II, on peut le garder, mais il faut se rappeler que le premier peuple de Dieu, c'est quand même le peuple d'Israël, et qu'il perdure et doit perdurer. Voilà. Voilà. Moi, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, j'écoute vos questions, et après, je vous renvoie. Mais y a-t-il des questions ? Une, non ? Une ? Oui, quand même.
Juste une petite précision. Dans toutes ces églises, les membres continuaient à pratiquer leur culte, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens, ou ils étaient en train vraiment de créer une nouvelle religion ?
Ah, non, attendez. Les païens, a priori, sauf quelques philosophes, ils ne croyaient pas au Dieu unique. Ils sacrifiaient aux idoles. Et donc, en particulier au dieu de la religion officielle romaine. Et ça, les chrétiens ont abandonné. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça va se gâter avec l'Empire, avec des persécutions qui seront assez minimes, même si on les a beaucoup grossies, hein, pendant les deux premiers siècles, et puis qui vont exploser à partir de 250 avec Dèce et Dioclétien. Elles vont exploser au moment où l'Empire romain va essayer, qui est en train de se déliter, il va essayer de se resserrer, du fait des empereurs qui décident ça, autour du culte impérial et du culte des dieux de Rome. À partir de ce moment-là, les chrétiens ne marchent plus. Donc les chrétiens, ils ont abandonné le culte de la cité, des dieux de la cité. Les chrétiens venus du judaïsme, rien ne les empêche de pratiquer la loi de Moïse. Mais s'ils sont chrétiens, ils croient que le salut vient par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'antinomie, c'est le Dieu unique et c'est le même. Mais c'est sûr que c'est le refus de sacrifier officiellement, publiquement, au Dieu du paganisme qui a entraîné les persécutions. Les chrétiens étaient des gens tordus, des gens pas comme les autres, des gens pourquoi les promouvaient des esclaves, etc. Ils étaient toujours un peu regardés comme dangereux. Mais les vraies persécutions, c'est ça. C'est, ils ne veulent pas sacrifier à l'empereur. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Encore question ?
Par exemple, il répond à quel type de problématique ?
Alors, dans la lettre aux Corinthiens, vous regarderez. Dans la lettre aux Corinthiens, vous regarderez. Dans la lettre aux Philippiens, c'est toujours ces problématiques de division, de manque d'unité et de soutien mutuel entre les membres de la communauté. Or, il faut savoir que, effectivement, on disait tout à l'heure, c'est difficile, cette doctrine, etc. Mais pendant longtemps, au moins quelques décennies, peut-être même quelques siècles, dans les communautés chrétiennes de base, ce n'était pas tant la doctrine, difficile ou pas, qu'on enseignait qui frappait les gens. C'était la façon dont on était solidaires. On a les témoignages de païens au 2e, 3e, 4e siècle. Ces gens-là sont étrangement solidaires les uns des autres, et des pauvres et des petits. Donc voilà, Paul répond à des questions de vie quotidienne et passe tout de suite par un détour, mais à quoi croyons-nous ? Ça marche ? Dans la lettre aux Romains, il cherche un autre langage que la parole de la croix pour dire ce don de Dieu à tous, quel qu'il soit, et ça va être le langage de la justice. Dieu qui rend juste, qui réconcilie les hommes sans distinction et sans exigence préalable. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie de votre patience.
exceptionnellement aujourd'hui, petit cadeau d'aujourd'hui, on ne range ni les chaises ni les tables.